Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui le Grand Orient de France, une émission préparée, présentée par Alexis Lacroix, avec Thierry Nerzic du Grand Orient. Benjamin Stora, bonjour.
Bonjour.
Très heureux de vous accueillir en ce dimanche matin à France Culture.
Merci.
Vous êtes
beaucoup.
Un habitué de ces studios, mais on est quand même très heureux de vous avoir dans l'émission du Grand Orient. Vous êtes le président honoraire du conseil d'orientation du musée de l'immigration de la Porte Dorée. Vous êtes professeur des universités et historien bien connu du Maghreb et des colonisations. Et vous avez été chargé par le président de la République, Emmanuel Macron, de lui rendre, je crois dans quelques jours, le rapport d'une mission qu'il vous a confiée concernant la réconciliation de la France et de l'Algérie. Alors jusqu'à maintenant, ce type d'initiative politique n'a pas abouti. Les tentatives de réconciliation entre la France et l'Algérie se sont heurtées à un mur. Est-ce que vous pensez que sous l'exercice de cette présidence, dans le mandat d'Emmanuel Macron, il va y avoir un dépassement des obstacles qu'ont rencontrés jusqu'à maintenant les Français et les Algériens pour, si j'ose dire, enterrer l'âge de guerre ?
Eh bien, il va falloir bien sûr beaucoup de patience et d'expérience pour surmonter tout cela, y compris avec ce rapport que je suis en train de terminer de rédiger, effectivement, que je remettrai dans quelques jours, peut-être la semaine prochaine, au président de la République. Mais dans ce rapport, il est fait mention, bien sûr, des expériences antérieures et des difficultés. Parce qu'en faisant l'inventaire de ce qui a déjà été réalisé, cela nous permettra peut-être de surmonter, disons, les difficultés à venir. Alors, par exemple, je citerai l'exemple le plus connu. C'est le traité d'amitié qui a failli être signé entre la France et l'Algérie dans les années 2003-2004, entre Jacques Chirac à l'époque et Abdelaziz Bouteflika. C'était très très bien parti. Quand soudain, en 2005, il y a eu ce qu'on a appelé la loi à l'Assemblée nationale votée sur la colonisation dite positive qui a mis le feu aux poudres. Et naturellement, ce traité d'amitié n'a jamais vu le
voilà,
jour.
Voilà, ça c'était sous l'influence d'une partie, on va dire, de la majorité de droite. C'était pas les Chirakiens d'ailleurs, c'était des gens qui étaient plus à droite souvent.
Tout à
mais
fait.
Qui se revendiquaient justement d'une, on va dire, d'une mémoire sudiste, pour employer vos termes, contre la reconnaissance de l'esclavage et de la colonisation comme des angles aveugles de l'histoire française.
Oui, il y a toujours eu, des deux côtés de la Méditerranée, des groupes de pression qui, dans le fond, entretiennent cette mémoire de guerre, vive même, de cette, on pourrait qualifier presque de cette rente mémorielle, à travers, disons, ce conflit interminable de mémoire qui date naturellement de la présence coloniale, des rentes mémorielles que l'on trouve en France, j'en ai parlé très rapidement dans cette fameuse année 2005, mais aussi de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie. Mmh. Il y a toute une série d'associations et d'organisations qui s'adossent et s'appuient sur une certaine conception de l'histoire anticoloniale pour ne pas envisager la possibilité, traité d'amitié avec la France.
Un rapporteur comme vous, Benjamin Stora, qui est un historien, un érudit aussi de cette histoire, de cette longue histoire de partenariat, mais aussi de conflit entre la France et l'Algérie. Il a aussi pour mission, je suppose, dans les préconisations qu'il va faire à l'exécutif français, d'essayer de desserrer l'étau de ces rentes mémorielles qui sont opposées en apparence, mais en fait complices dans le blackout du système.
Alors bien évidemment, ce n'est pas ici et maintenant que je vais révéler les préconisations qui seront dans ce rapport. Mmh. Que je dois remettre au président de la République, il en aura la primeur.
Évidemment.
Donc ce n'est pas possible pour moi. Simplement, ce que je voudrais, c'est peut-être essayer de
nous dire quelques principes qui ont guidé votre
principes,
action.
Quelques voilà. principes très généraux, c'est-à-dire d'abord le fait qu'il y a effectivement des imaginaires différents entre la France et l'Algérie, parce que c'est des nationalismes différents. Le nationalisme français, c'est en grande partie construit sur la question de l'Empire colonial. Et la perte de l'Algérie française a été très mal vécue, comme une blessure interne du nationalisme français. Donc c'est pour ça que c'est pas n'importe quelle question. Et puis du côté algérien, la nation s'est elle-même construite contre la présence coloniale française. Donc on a un nationalisme de part et d'autre qui n'est pas le même. D'un côté un nationalisme qui vise, disons, à ne pas comprendre, à ne pas accepter cette séparation. Et de l'autre côté, disons, une Algérie qui continue de se, une Algérie officielle, qui continue de se conforter avec toute une série de récits nationalistes, etc. Ça, c'est une des parties de mon rapport consiste à expliquer pourquoi c'est si difficile. Beaucoup plus qu'avec d'autres pays comme le Maroc, l'Indochine ou le Sénégal, c'est que l'Algérie, tout simplement, c'était la France, c'était intégré à la France. Et donc, c'est par conséquent partie prenante de la nation française. C'est pour ça que c'est si difficile.
Là, c'est l'histoire des échecs.
C'est l'histoire des échecs, mais en même temps qui explique pourquoi et comment on va essayer de trouver des passerelles qui ne pourront pas traiter l'ensemble des questions d'un coup, mais d'essayer de trouver et de se situer dans des imaginaires qui permettent d'innover, de construire des passages, et non pas de réécrire une histoire commune, par exemple. Ça, je pense pas que ce soit possible. Dans l'immédiat, peut-être des générations suivantes, un jour, écriront des histoires communes, mais tel que je viens de donner très rapidement quelques principes historiques, il est bien évident que la possibilité d'une histoire immédiate commune entre la France et l'Algérie n'est pas à l'ordre du jour.
Alors, quand Jean-Pierre Chevènement, justement, sur plusieurs radios, cette semaine, il était sur plusieurs radios, Judaïque FM notamment, dit qu'il faut absolument trouver les moyens d'apaiser les relations entre les Français et les Algériens, j'imagine que vous réfléchissez quand même aux moyens concrets. Quels sont-ils éventuellement?
Il a raison, Jean-Pierre Chevènement, parce que je rappelle d'ailleurs qu'il a été un des premiers présidents des amitiés parlementaires entre la France et l'Algérie. Donc c'est vous dire à quel point il a essayé lui aussi depuis des années de trouver des points de passage existants dans cette circulation mémorielle extraordinairement difficile. Alors les points de passage, c'est des... Non pas, à mon avis, simplement faire des discours généraux anticoloniaux avec des repentances et des excuses. Je crois pas à ça. Parce que vous savez, des discours très généreux et généraux, il y en a eu beaucoup. Vous allez voir dans mon rapport, parce que j'espère que vous en aurez connaissance, mais je cite en particulier et je fais l'inventaire des discours prononcés de dénonciation du système colonial par Jacques Chirac à Madagascar, par Nicolas Sarkozy à Constantine, qui a fait un discours très dur contre le système colonial. Bien sûr, François Hollande à Alger en 2012. Vous voyez, on peut énumérer comme ça toute une série de discours qui ont été très violents contre la domination coloniale, l'esclavage, la colonisation, etc. Mais sans effet particulier, c'est-à-dire sans qu'il y ait de traduction pratique, concrète, évidente, efficace, et qui puisse exister. Alors, celui qui a commencé, il faut dire la vérité, celui qui a commencé à essayer de trouver des traductions pratiques, c'est précisément Emmanuel Macron sur deux aspects, c'est-à-dire la question Maurice Audin. Le Maurice Audin est un mathématicien qui avait été enlevé, qui a disparu, et sa famille, et les militants, les camarades qui combattaient depuis très longtemps pour la reconnaissance par la France de ce crime commis, eh bien, Emmanuel Macron a prononcé, a fait un texte, où il reconnaît, disons, la pratique de la torture comme une sorte de système. C'est pas n'importe quoi. Je veux dire, comme type de déclaration, c'est la première fois qu'un chef d'État en exercice reconnaissait cela. Et puis, il y a eu la restitution de ce qu'on appelait les crânes, les 24 crânes d'Algériens qui avaient été décapités en 1849. Et d'ailleurs, par parenthèse, à cette occasion, beaucoup de Français ont découvert que la conquête de l'Algérie avait été très longue, sanglante et terrible.
Alors, Benjamin Stora, vous êtes
donc,
pas...
Donc voilà, ça, ce sont des points pratiques. Alors, il y en a d'autres à trouver.
Vous n'êtes pas dans la tête du président de la République. D'ailleurs, c'est pas l'exercice qu'on vous demande ici dans l'émission du Grand Orient de France sur France Culture. Néanmoins, s'il a pris l'initiative de vous confier cette mission importante, est-ce que c'est parce que vous pensez qu'on n'a jamais eu un président de la République sous la Ve qui est aussi attentif, aussi sensible, peut-être aussi angoissé par les fractures qui parcourent la société française aujourd'hui?
Je pense qu'effectivement, on peut critiquer la politique d'Emmanuel Macron sur tel ou tel aspect, mais on doit au moins regarder en face le fait qu'il a nommé des choses, qu'il a dit qu'il y a des fractures graves dans la société française qui peuvent mettre en péril ce qu'on pourrait appeler l'unité nationale. C'est-à-dire, c'est les replis identitaires, de toutes sortes, des oppositions, des guerres de mémoire, très violentes, qui existent à l'intérieur de la société française, et qu'il faut commencer à s'atteler à ça. Il faut commencer à réfléchir, encore une fois, à essayer de raccommoder, trouver des passerelles, recoudre, et faire en sorte que l'on puisse se parler les uns avec les autres, dans des conceptions différentes que l'on peut avoir sur le passé colonial, l'esclavage, la question du féminisme, le racisme, les questions religieuses, etc., etc.
Alors, au passage,
je
résiste pas, Benjamin Stora, puisque nous sommes sur l'émission du Grand Orient. C'est une vertu maçonnique, le débat. En maçonnerie, il y a des choses qu'on sait faire, on sait débattre. Normalement, il est même, on peut dire, ritualisé, le débat. Vous pensez que ce débat public, si difficile aujourd'hui, gagnerait à s'inspirer aussi du travail que font les loges et de cette espèce d'apprentissage de la discussion qui est dans tout parcours initiatique?
Ah, je suis certain de cela, bien sûr. Il y a déjà eu un travail très important. J'avais été invité, moi, personnellement, plusieurs fois dans les loges à venir parler de ces questions. Et à chaque fois, j'ai été très surpris par la volonté, la ténacité exprimée par chacun des participants d'essayer de trouver des solutions à tout ça. Des solutions difficiles parce que tout le monde veut avoir raison dans le passé. Et ça, c'est terrible parce que nous sommes dans un présent qui avance. Et on ne peut pas rester, disons, dans le fait d'avoir eu raison toujours dans le passé qui est passé. Et j'ai été surpris de voir qu'effectivement, beaucoup de personnes essayaient de dépasser cela, notamment dans des villes comme Marseille, par exemple, qui sont des grandes villes de ce qu'on a appelé, entre guillemets, la diversité, où la présence algérienne est très forte, la présence de l'histoire de l'immigration algérienne est très forte, et où les loges sont très actives sur ces questions-là, notamment sur le biais de l'éducation, de la connaissance culturelle, de l'apprentissage de l'histoire, de toutes ces questions. Ils m'ont invité, d'ailleurs, je parle de Marseille, parce que c'est là où j'ai été le plus invité, faut dire la vérité, sur ces questions-là, parce que eux sont confrontés en première ligne à une question qui est très simple, c'est que pour éviter les affrontements et les séparations, il faut que chacun connaisse l'histoire de l'autre. Les Français doivent connaître l'histoire des Algériens, mais les Algériens doivent aussi faire l'effort de connaître l'histoire des Français qui n'ont pas tous été des colonialistes, parce qu'il a existé un anticolonialisme en France, dans ce pays, et qu'il faut porter à la connaissance des jeunes générations. Donc, par conséquent, se connaître réciproquement, c'est-à-dire le problème de la réciprocité, c'est une question et une vertu qui me paraît tout à fait décisive.
Alors, j'ai apporté un livre, personne ne peut le voir à l'antenne, qui s'appelle « Le pouvoir en Méditerranée, un rêve français pour une autre Europe ». Il est signé d'un grand sociologue allemand qui s'appelle Wolf Lepenitz, que vous connaissez sans doute, édité par la Maison des sciences de l'homme à Paris. Il restitue 200 ans au fond de rêve de la Méditerranée, d'une politique, d'une géopolitique méditerranéenne. Est-ce que ce rêve-là, qui c'est vrai a avorté, il a avorté même quand Henri Guénaud l'avait porté sous l'ère Sarkozy, est-ce que ce rêve-là, il est plus que jamais à l'ordre du jour aujourd'hui, selon vous, Benjamin Stora?
Mais vous savez, au cœur de la nécessité d'une, entre guillemets, réconciliation franco-algérienne, au cœur, il y a la géopolitique méditerranéenne. Pourquoi? Parce que l'Algérie est un grand pays méditerranéen. C'est un grand pays du point de vue de l'immigration. C'est la plus grande, comment dirais-je, côte méditerranéenne, de 1400 km de côte. C'est le plus grand pays de toute la Méditerranée. Il a la plus grande frontière saharienne avec le Mali, le Niger, la Libye, la Mauritanie, la Tunisie, le Maroc bien sûr. C'est-à-dire que l'Algérie a le plus grand désert du monde, le Sahara. Et en termes de géopolitique aujourd'hui, la France et l'Algérie, quelle que soit la nature, encore une fois, des États que l'on peut critiquer sur le manque de démocratie politique intérieure ou autre, la France et l'Algérie doivent être de grands partenaires au cœur d'une stratégie, d'une situation géopolitique en Méditerranée.
Alors justement, et on peut pas... cette stratégie, est-ce qu'elle fait sa place, d'après vous, Benjamin Stora, à une convergence sur la défense d'un certain nombre de principes essentiels à la démocratie, et notamment, bien sûr, la défense d'une certaine idée de la laïcité, d'après vous?
Bah, vous savez, ça fait partie des grandes questions, j'allais presque dire franco-françaises. C'est une question que les Français doivent régler avec eux-mêmes. C'est pas une question, pour dire la vérité, qui est soulevée aujourd'hui dans la société algérienne. La société algérienne, elle soulève d'autres types de questions que je peux énumérer en vrac, comme celle de la liberté de la presse, le statut des femmes, donc le rapport et l'égalité homme-femme, bien entendu, le problème de la nature du pouvoir politique, enfin je pourrais comme ça, et puis surtout le problème des minorités, et puis aussi la question berbère. Bon, vous voyez, je peux énumérer comme ça des grandes questions qui secouent, qui travaillent en profondeur la société algérienne, mais c'est pas la question de la laïcité. La question de la laïcité, elle se pose surtout en France, depuis quelques années maintenant, où sans arrêt existent des débats qui n'en finissent pas sur le sens à donner à cette laïcité, à la fois dans son origine historique de 1905, mais aussi dans son présent, dans le rapport à des nouvelles religions. Bien sûr, on pense à l'islam, c'est évident. Donc il y a sans arrêt des débats et des discussions qui tournent autour de la question de la laïcité, alors que pour moi, la question est relativement simple. C'est tout simplement le fait d'observer que la laïcité, c'est la neutralité pour des fonctionnaires, mais pas le fait que dans l'espace public, on n'ait pas le droit d'abdiquer sur ses convictions personnelles.
C'est dit et c'est bien dit, Benjamin Stora. Grand merci à vous. Je rappelle Une mémoire algérienne aux éditions Robert Laffont. C'est le superbe bouquin de la collection bouquins qui vous est consacré. On se tourne vers Thierry Nerzic. 3 minutes et demie d'agenda, Thierry, et aussi de Focus.
Mon cher Alexis, dans le domaine des revues du Grand Orient de France, je voudrais signaler la sortie du numéro 93 de la chaîne d'Union. Revue trimestrielle dédiée aux études maçonniques, philosophiques et symboliques, qui, je le rappelle, est la plus ancienne revue maçonnique française encore en parution. Dans ce numéro 93, la chaîne d'Union nous propose un voyage entre tradition et initiation, porté toujours plus loin par les nécessités de sa survie ou par son imagination. L'être humain est nomade et le voyage fait partie de l'humaine condition, nous indique Jacques Garat, rédacteur en chef de la revue. Et de poursuivre, au cœur d'enjeux qui appartiennent à la fois au temps et à l'espace, à la poursuite de désirs ou tendus vers un idéal, nourri d'espérance, inscrit dans la durée, tout voyage est une quête, une aventure de l'esprit. En tout temps et en tout lieu, il est toujours apparu comme une composante essentielle de l'initiation. Le dossier de ce numéro 93 se veut simple ouverture, invitation à pénétrer cet univers immense et sans fin du voyage, où, comme nous l'indique Charles Baudelaire, les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent, pour partir, cœur léger, semblable au ballon, de leur fatalité jamais ils ne s'écartent, et sans savoir pourquoi disent toujours « allons ». Tout est dans le trajet, tout est dans le départ. Ici, des compagnons opératifs du Tour de France au voyage des compagnons maçons, en passant par le labyrinthe et l'expérience initiatique, vectrice d'imaginaire, du cinétourisme, ainsi que par l'étude d'œuvres telles les voyages de Cyrus du chevalier de Ramsay, ou de récits d'un voyage sur les pas de Saint-Jean de Perse, tout est dans le trajet, tout est dans le départ. Voilà mon cher Alexis, pour ce qui concerne les parutions.
Voilà.
Du Grand Orient.
Et on va synthétiser, parce que le réalisateur nous fait des signes désespérés en cabine, on va synthétiser, disons, les rendez-vous essentiels de l'obédience.
Pour ce qui est de l'agenda, nous n'ignorons pas, dans la période que nous vivons, l'extrême difficulté à organiser quelques événements que ce soit. Alors une pensée à tous ceux qui se sont engagés dans l'organisation événementielle. Pour ma part, j'aimerais tout d'abord resignaler la très belle exposition qui se tient au musée de la franc-maçonnerie rue Cadet du 18 septembre au 20 novembre. Ensuite, le 17 octobre, rue Cadet, il y aura une conférence publique dans le cadre des dialogues maçonniques, Grande Loge de France, Grand Orient de France, sur quelles valeurs fonder le monde de demain. Le 22 octobre verra, à 19h30, rue Cadet, la remise du prix de la Fondation du Grand Orient de France. Le prix sera remis à deux organisations, l'association Le Moulin Vert, primé pour son action spécifique auprès d'enfants autistes, et le réseau TECAP qui travaille sur l'évolution de la place et du regard porté aux personnes handicapées dans la société. Enfin, les universités populaires maçonniques qui reprennent leur cycle avec une programmation le 30 octobre à Valenciennes. Vous trouverez l'ensemble des informations que je vous ai données sur le site du Grand Orient de France, www.godf.org.
Merci beaucoup Thierry Nerzic, merci beaucoup Benjamin Stora. Donc on attend vos préconisations. Évidemment, entre les lignes, les plus affûtés de nos auditeurs auront compris quand même dans quelle perspective vous allez situer le rapport que vous remettez dans quelques jours à Emmanuel Macron. À la technique, c'était Cédric Chatelus et à la réalisation, Payeret Legras. Nous nous retrouvons bien sûr le mois prochain. Et donc un très bon mois d'octobre à tous.